les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieux des ondes et amoureux de la radio, bonjour. Vous écoutez les ondes buissonnières et aujourd'hui, on vous propose une émission sur la parentalité. Vous la connaissez sûrement, on la diffuse de temps en temps, c'est Parentalité, mon amour. C'est signé Radio Méga et aujourd'hui, c'est sur le thème de la confiance en soi.
Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
N'aie pas peur et confiance en toi. Cette phrase, cette injonction, dans certains cas, nous l'entendons souvent de la bouche de nos amis, nos collègues de travail, de la bouche d'un parent, d'un enfant. Mais cela est-il si simple ? Suffit-il de le dire pour que nous soyons confiants, prêts à affronter une épreuve de la vie, au travail, ou tout simplement prêts à vivre le quotidien ? Que recouvre cette notion de confiance en soi ? Est-elle un capital présent dès notre enfance ? Peut-on démarrer sans aucune confiance ? S'acquiert-elle cette confiance tout au long de la vie ? Et si oui, comment ? Que faire quand elle nous échappe ? Quand le petit coup de mou se transforme en grosse déprime et au-delà en dépression ? Niveau zéro de la confiance en soi, de la confiance en la vie. Nous allons échanger sur le sujet avec Marine Gential. Bonjour Marine.
Bonjour.
Vous êtes bénévole de l'association Parentalité Plurielle. Avec vous sur le plateau, Sylvain Mollier. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes conseiller informateur jeunesse du Point Info Jeunesse. Aujourd'hui, c'est la famille Turel que nous entendrons dans le portrait. Elle sera représentée par Annie. Bonjour Isabelle Tambay.
Bonjour.
Alors vous représenterez la CAF sur ce plateau et surtout vous nous donnerez les infos des structures en fin d'émission. Commençons cette émission par la parole de personnes rencontrées dans Valence. Je leur ai d'abord demandé comment ils décriraient leur propre capital confiance à 15 ans.
Quand j'avais 15 ans, j'avais plutôt confiance en moi, ouais, globalement. J'étais au lycée, c'était cool, j'avais pas mal de copains, de copines, et scolairement aussi, ça allait bien.
Alors à 15 ans, moi j'étais pas trop confiant en moi, c'est venu plus tard, il m'a fallu plus de temps. C'était une période difficile de l'enfance. C'est pas les meilleurs souvenirs, quoi. Le lycée a été plus épanouissant pour moi.
Autant le collège c'était difficile, c'est là où j'ai construit ma personnalité, on va dire. Mais après, au lycée, j'étais épanouie, j'avais confiance en moi, j'étais bien entourée, ça marchait bien au niveau scolaire, donc ouais, c'était bien, c'était les bonnes années.
Chez vos enfants, la confiance en soi, comment vous la sentez, comment vous la voyez ?
J'ai un garçon qui a 7 ans et demi, je pense qu'il a assez confiance en lui, par contre, il va prendre le temps avant de faire les choses, de s'assurer qu'il a bien testé toutes les choses avant d'y aller. Mais globalement, ouais, il a plutôt confiance en lui pour entreprendre des choses, aller vers les autres, s'insérer dans les activités globalement de l'école ou du sport.
Alors moi j'ai deux garçons et ils sont très très différents tous les deux, et donc j'ai le jour et la nuit, donc j'en ai un qui est hyper confiant en lui, le plus jeune, et le plus grand, bah, c'est la catastrophe, pourtant il réussit bien, il se débrouille bien. Enfin, ça va bien pour lui, il a une petite amie, tout va bien. Mais on sent qu'on a toujours besoin de le rassurer, de le conforter, de lui dire qu'il fait bien, parce qu'il fait bien. Et donc c'est vrai qu'on sent qu'il aura... Enfin, nous, on a l'impression qu'il n'aura jamais confiance en lui. Donc c'est vrai qu'on est toujours en train d'essayer de le valoriser là-dessus.
L'hyper-confiance, ouais. Vous y voyez quelque chose derrière ou pas forcément ? Peut-être autre chose que ce que c'est finalement ?
Il donne une impression d'avoir confiance en lui, mais est-ce que c'est une façade ? Souvent, il nous le dit, enfin, voilà, qu'il est le second, qu'on s'occupe moins de lui, quand on peut discuter avec lui. Donc, c'est vrai qu'on On se demande souvent si c'est une façade en fait et qu'en fait il n'est pas si confiant que ça.
Moi j'ai une fille et un garçon et ma grande fille, je sens qu'elle a moins confiance en elle. Elle est plus réservée, elle est plus discrète, plus dans l'observation, plus besoin d'être rassurée. Et mon fils, lui par contre, beaucoup plus expansif, enfin, facile d'accès. J'ai pas mis ça encore sous le compte de la confiance ou pas parce que je me posais pas la question dans ces termes-là. Mais en tout cas dans leur caractère, on voit qu'ils abordent pas les gens, la vie en société de la même manière.
Est-ce que vous êtes déjà posé la question d'outils à mettre en place pour la sonder, cette confiance en soi? On sait qu'elle peut bouger, peut-être à l'adolescence, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Moi, j'essaye de développer ça chez lui, de ne pas le mettre en doute, voilà, d'écouter sa parole, de la prendre en compte. Et je pense que ça, c'est important aussi pour qu'il sente aussi qu'il peut avoir confiance. Et puis, bah, l'encourager quand il prend des initiatives ou quand il fait des choses qui vont dans le bon sens.
Parentalité, mon amour, nous voilà après ce micro-trottoir, cette parole recueillie dans la rue. Sylvain, peut-être une réaction de votre part, Sylvain Mollier?
Ben, dans ce que j'ai entendu des interviews, la notion de confiance, finalement, ressort une capacité d'entreprendre, de se forger un caractère, on dira de manière positive. On a entendu les termes entreprendre, s'insérer, effectivement. Donc quelque chose, du coup, qui est de l'ordre, finalement, de la projection dans l'avenir.
Alors, on échangera sur le point information jeunesse et voir comment vous travaillez avec les jeunes en deuxième partie d'émission. Marine Gensial, peut-être deux mots sur ce que vous avez entendu.
Oui, moi, ce que j'ai entendu, c'est la notion de différence entre... déjà, les témoignages sont tous différents. Donc, les expériences de chacun sont différentes, mais aussi différence entre les enfants. Les témoignages de parents, je trouvais ça intéressant de voir que d'un enfant à l'autre, on n'observe pas forcément la même chose. Voilà, donc moi, ça m'évoque à la fois les différences de personnalité, mais aussi peut-être des différences de vécu ou de contexte quand ces enfants sont arrivés au monde ou qu'ils ont grandi.
Alors, je vais vous donner quelques mots de deux stagiaires qui étaient présents ici. Je leur ai demandé, ils avaient entre 18 ou 17 et 20 ans, ce qu'était pour eux la confiance en soi. Ça va très vite, mais écoutez les mots qu'ils m'ont dit.
Pour moi, la confiance en soi, c'est ne pas avoir peur, prendre des initiatives et s'exprimer.
C'est quand on se sent en sécurité dans les tâches que l'on accomplit.
Il y a des mots forts là quand même, en peu de mots et assez rapidement. Lequel vous a retenu le plus dans ces mots qui sont, à mon sens, clés, Sylvain?
Le premier, ne pas avoir peur, et puis son corollaire, finalement, c'est la sécurité.
La sécurité qui est dit par le deuxième, effectivement. La même chose peut-être,
c'est
Marie.
Exactement le mot que j'ai noté.
Peur et sécurité, ouais. Voilà qui pose les bases de cette émission. Je le disais, Marine, en introduction, donc vous êtes bénévole à l'association Parentalité Pluriel. On va voir un petit peu ce que vous faites exactement. Vous travaillez notamment avec les plus jeunes quand vous accueillez les parents. Justement, cette association, elle propose donc de venir échanger, propose aux parents, autour d'un café. Pour l'avoir pratiqué, c'est très agréable comme accueil. Dans un lieu comme la MJC Châteauvert, c'était en tout cas le dernier que vous ayez eu, je crois. Quel constat vous avez fait auparavant pour proposer cela aux parents? Ça vient d'où, ça?
Alors déjà, j'aimerais juste exprimer une petite modification. Oui. C'est Partage Parentalité Pluriel.
Voilà, je l'ai mis à l'envers.
L'association. mais c'est intéressant. Partage. Il manque le mot partage, qui est le mot, effectivement, je dirais, central. Puisque l'idée de départ, c'est vraiment de créer un lieu qui permette aux parents, et notamment parents de jeunes enfants, ou nouveaux parents qui expérimentent pour la première fois la parentalité, de sortir de l'isolement, de pouvoir rencontrer des pères, de rencontrer aussi des bénévoles, des professionnels qui peuvent leur apporter à la fois des éléments sur des questionnements qu'ils peuvent avoir, mais aussi juste de l'entraide, du soutien, du partage.
Je vais faire un petit retour en arrière, mais est-ce que vous, ça a pu être un besoin que vous auriez eu à l'arrivée de vos enfants, avec vos enfants? Est-ce que ça vous a rappelé des choses?
Bien sûr.
Un manque?
J'ai eu la chance. Moi, j'ai mis le pied dans cette association, en fait, lors de ma première expérience de maternité, puisque j'ai fait connaissance de Sarah Lapierre, qui est actuellement encore coprésidente, qui était à l'origine de la création de cette association, et qui était monitrice de portage. Donc, qui est venue m'apprendre à porter mon bébé, à l'époque, en écharpe, et qui m'a, de par mon bagage professionnel antérieur, m'a demandé si ça m'intéressait de venir œuvrer dans cette association. d'adoption qui commençait à naître. Et c'est comme ça que je suis d'abord venue en tant que parent, en tant que maman, dans ce lieu. Et je me rappellerai toujours ce premier pas, puisque c'était pas facile pour moi de franchir le pas d'une première porte comme ça. Mmh. Et je me rappellerai toujours avoir été accueillie par une bénévole quand je lui ai partagé ce que je vivais de difficile et qui m'a dit « mais moi aussi ». Enfin voilà, elle m'a partagé son expérience et ça m'a fait vachement de bien. Je me suis dit « waouh, mais je suis pas toute seule ».
Ouais. Vous avez dit c'est difficile de passer le pas, c'est quoi qui était difficile en fait ?
Il y avait quelque chose de difficile de sortir de l'isolement, puisque ça m'emmenait à être face au regard des autres, et donc au potentiel jugement. Il y avait vraiment ça chez moi, alors que dans mon chez-moi, quelque part, même si c'était dur et lourd, j'étais seule et donc pas regardée, pas jugée sur ce que je faisais.
Peur et sécurité, je sais pas si on peut revenir un peu sur ces mots-là. Au-delà des rencontres entre parents, c'est ce que vous proposez avec l'association, il y a un accompagnement par des professionnels, c'est-à-dire qu'on peut aussi trouver des choses avec ces personnes. Quel est l'apport justement de ces accompagnants, de ces personnes professionnelles qui sont là ?
Alors, l'apport, il est multiple. Je dirais, en premier lieu, c'est un apport d'information, parfois sur des questions d'éducation, de parentalité, voilà, diverses et variées, mais aussi de découvrir des lieux existants, finalement, des professionnels œuvrant dans le champ de la parentalité, de la périnatalité sur Valence et environ. Mais surtout, je crois que nous, on avait vraiment envie, et c'est comme ça qu'on a accompagné les professionnels dans leur posture au sein de l'asso, c'est d'avoir vraiment une approche soutenante et valorisante de ce que font déjà les parents, de ce qu'ils sont déjà, des ressources qu'ils ont déjà. Et de ne pas être forcément dans une posture de professionnel sachant pour eux et leur apportant la meilleure pratique parentale possible. Quoi. Mmh.
Voilà. De co-mère, ces fameuses co-mères dont on parle dans beaucoup de bouquins autour de l'enfance, qui vont apporter des conseils en étant sûr du point de vue. Et c'est bien, là, on ne juge pas, encore une fois, on laisse aller. Des professionnels de tous ordres, on l'a vu, vous m'avez parlé de yoga notamment.
Oui.
Comment ils sont choisis ? Est-ce qu'il y a un sondage auprès des parents pour savoir quel professionnel va venir la semaine d'après ou dans la quinzaine ?
Pas forcément. C'était plutôt, on était, je dis on était parce qu'actuellement les cafés des familles sont un peu entre parenthèses. On compte les reprendre à partir de septembre l'année prochaine, mais c'est vrai que là actuellement avec le Covid qui est passé par là, on a eu un peu du mal à les maintenir. Mais on était plutôt un binôme au sein du UCA à réfléchir à tiens, quelles sont les thématiques qui pourraient être intéressantes d'amener, soit les thématiques dont on parle beaucoup à l'heure actuelle ou les thématiques qui semblent intéresser les parents. Donc parfois c'était lié à des échanges informels qu'on avait sur le café des familles aussi hein, et des retours des parents. Et nous on allait chercher un petit peu dans notre réseau ou autour les professionnels qui pouvaient correspondre à ça.
Alors c'est café des familles, on va juste peut-être se nourrir de l'expérience que vous avez eue et ils vont reprendre j'en suis sûr. D'ailleurs si des bénévoles nous écoutent, potentiels bénévoles, il faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. C'est des temps souvent sur les week-ends,
oui.
On s'autorise ces temps, est-ce que là ça resserre le lien familial ? Est-ce que ça resserre le lien avec l'enfant parce qu'on est ailleurs qu'à la maison ?
Bien sûr, c'était sur un dimanche par mois et c'est ce qu'on compte reprendre puisque ça touchait aussi les parents qui peuvent travailler parfois le samedi. On a eu beaucoup de papas qui venaient aussi, donc c'est vrai que ça c'était intéressant. Et les activités proposées, il y avait beaucoup des choses, ateliers à partager parents-enfants, voire même aussi des activités un peu plus manuelles qu'on appelait les com à la maison mais en mieux, des activités un peu manuelles salissantes qu'on aime parfois pas faire chez soi, où on a la flemme de sortir sa peinture, ses paillettes, voilà, et que c'est agréable de le faire ailleurs, comme ça salit pas chez soi. Mais oui, vraiment des activités qui vont venir nourrir le lien parents-enfants.
Ah, le bénévole nettoie un peu hein, ce qui
oui,
a été
oui,
laissé,
oui.
Mais ça fait partie du jeu. Et exactement. J'imagine qu'on passe aussi un temps agréable entre bénévoles après ces séances. Cette année, vous créez les récrés des familles.
Oui.
Alors, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, c'est une forme de répit, parce qu'on va venir avec les enfants, mais chacun va faire des tâches différentes. Et on sera plus ou moins ensemble, en tout cas pas très loin.
Oui, cette année, donc comme je disais, le Covid est passé par là, on a eu du mal à pouvoir, on n'avait pas assez de bénévoles pour mobiliser et pour ouvrir les cafés des familles un dimanche par mois. Donc on s'est plutôt associé avec la MJC Châteauvert pour créer des journées, il y en a trois dans l'année qui s'appellent la récré des familles, qui sont sur des thématiques à chaque fois différentes, et où l'idée c'est effectivement de faire venir des intervenants, mais aussi des bénévoles, et qu'on vient avec son enfant, son ou ses enfants, passer une journée, mais chacun a des activités travailler de son côté, les enfants ensemble, les parents ensemble, le matin et l'après-midi, on inverse aussi en fonction des thématiques. Et on se retrouve sur les temps de midi et de goûter pour partager là un repas ensemble, un goûter ensemble, repas ou goûter qui a été préparé soit par les enfants, soit par les parents d'un côté.
Alors on a parlé de liens qui peut être renforcé, on va revenir un peu sur le sujet, même si on ne va pas le répéter toute l'émission, mais en quoi ces moments, selon vous, renforcent, j'ai inventé ce terme, la confiance familiale, si on peut l'appeler comme ça, mais la confiance en la cellule familiale, est-ce que ça va renforcer ça aussi ces temps ?
Moi, ce que je vois dans ces temps-là, c'est que c'est un moment, comme vous disiez tout à l'heure, de répit. C'est-à-dire que c'est un moment où on va être aussi pas entre adultes, sans son enfant, sans ses enfants, et où on va pouvoir souffler un peu, s'accorder du temps à soi. Et je crois que ça, c'est hyper important. Ça touche du doigt. Pour moi, tout à l'heure, je parlais que les cafés des familles et ces actions parents-enfants, elles permettaient de nourrir le lien. Mais d'aller faire de l'équilibre entre répondre aux besoins du parent et répondre aux besoins de l'enfant, c'est aussi très intéressant pour favoriser effectivement le lien entre enfants et parents, puisque ben, si on est ressourcé, on a un peu plus envie de passer du temps avec son enfant aussi.
On va mieux quand on est ressourcé, effectivement. Quand vous organisez ces ateliers avec des buts à atteindre ou des choses à faire au bout, est-ce que vous considérez que c'est le chemin qui amène justement à la confiance ou plutôt le but ? Qu'est-ce qui va renforcer la confiance de l'enfant ? Est-ce que c'est d'essayer d'atteindre ou il faut atteindre ? Je crois que vous m'avez donné la réponse tout à l'heure à peu près.
J'aime pas les « il faut atteindre ». J'aime plutôt l'histoire du chemin, du cheminement, de faire avec ce qui se présente aussi et d'accompagner quoi, finalement ce chemin-là. Puisque je crois que l'histoire de la confiance en soi, c'est quelque chose de... qui va bouger en fait, hein. Elle n'est pas là toute la vie de la même façon, elle va bouger aussi en fonction des événements et des expériences qu'on fait, donc j'aime mieux l'idée du chemin.
Cheminons ensemble cette émission. Vous allez participer à la journée famille en fait, on va en parler tout à l'heure dans l'agenda, c'est Isabelle Tambay qui en parlera, organisée par la ville de Valence. C'est une bonne manière de montrer peut-être au plus grand nombre votre manière de faire du lien, de créer, on l'a dit, des temps de répit, de présenter votre et d'avoir peut-être des bénévoles qui viennent à vous ?
Oui, je pense que ça peut y contribuer. C'est souvent une super journée. On l'a fait l'an dernier. On a été d'ailleurs le stand qui a eu le plus de passages, et notamment le matin, alors que les autres n'en avaient pas. Donc c'était une belle réussite pour nous, avec beaucoup d'activités assez ludiques. Parents-enfants, on est nous sur un public entre 0 et 6 ans. Donc il y avait du passage, du mouvement, et c'est très chouette. Et effectivement, ça donne envie. En tout cas, c'est des événements qui, moi, qui suis bénévole, me donnent envie de rester et de continuer à m'investir.
Comment vous feriez un appel à bénévoles là au micro ? Qu'est-ce que vous diriez aux personnes pour les faire venir avec vous ?
Eh bien, je crois que ce qui me tient à cœur beaucoup, c'est que les gens viennent avec leurs propres compétences, leurs propres envies, et que j'ai pas du tout envie qu'on fasse venir des personnes en leur disant « vous allez faire ci, ça et ça ». Le bénévolat, c'est déjà du temps, d'investissement, c'est pas rien. Et du coup, je pense que le meilleur moyen d'avoir envie d'y être et d'y rester, c'est d'être à un endroit où on se sent juste avec soi, avec ses compétences, et qu'on a l'impression et que ça nous apporte aussi en retour. Donc moi, on est plutôt dans cette démarche-là, de faire venir les gens et de voir avec eux, tiens, qu'est-ce qui vous donne envie et à quel endroit on peut vous positionner, quoi.
Comment on vous trouve ? Comment s'inscrivent les parents qui auraient entendu les différentes choses que vous allez proposer ?
Comment on nous trouve ? Alors, on n'est pas très bonne à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on... Là, pour le coup, si quelqu'un a cette compétence-là, cette envie-là, on a matière à faire. Sinon, on a une adresse mail qui s'appelle cafedesfamilles26@gmail.com sur laquelle on peut nous contacter pour avoir un peu d'infos. Et puis sinon on est régulièrement à la MJC Châteauvert quand on organise des événements avec, ou à la journée famille en fait le samedi 13 mai après-midi, ce sera le meilleur moyen de nous trouver.
Les compétences réseaux sociaux, on pourra peut-être demander tout à l'heure à Sylvain Mollier qui travaille au PIGE, peut-être au point d'information jeunesse, peut-être il connaît des jeunes qui viendraient travailler, faire bénévole avec vous. On va en parler, on vous mettra en relation en tout cas après l'émission. Je vous propose tout de suite d'écouter Fen Lily, elle nous propose Light Up et c'est sur le label Dead Ocean.
Thank you. pressure in the floor. There isn't more in a waking day than dreaming, or so I thought. You came to me at the speed of a bad decision, just the speed, the bad, not so.
Mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Et on est bien dans Parentalité, mon amour. 32e épisode aujourd'hui, on parle de confiance en soi. On va aller faire un tour du côté de Privas, tiens, dans la série des portraits de famille, cette semaine, la famille Turel, représentée par Annie. On écoute tout de suite.
Annie Turel-Grosjean, avec mon compagnon Frédéric, nous formons une famille recomposée. Donc, nous avons adopté deux garçons, Liam et Milo, au Vietnam. Et mon mari avait deux filles, donc Colline et Silou. Et je suis membre de l'association EFA, Enfance, Famille, Adoption. La confiance en soi, c'est croire en soi, c'est se sentir... avec soi, une espèce de justesse pour aller vers les autres.
Est-ce que vous étiez confiante en vous à 14 ans ?
Oh là là, non, pas du tout. Oh là là, comment je me cherchais. Je me cherchais et au travers de la musique, des écrits, beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis une vraie rêveuse. Donc, non, à 14 ans, j'avais pas confiance en moi du tout, quoi.
Comment, selon vous, la confiance d'un enfant, en tant que parent, elle se construit dans le plus jeune âge ?
Moi, je crois vraiment, c'est le regard que portent les parents, bien sûr, mais aussi l'entourage. Jouer avec nos enfants, on a adopté Liam, il avait 9 ans. Ben, il n'a pas été beaucoup regardé jusqu'à 9 ans. Il n'a pas été regardé. Et là, en ce moment, voilà, il a 16 ans, c'est pas toujours simple. Donc, je pense que, oui, le regard d'amour qu'on porte...
Est-ce que vous avez senti chez vos enfants, à un moment donné, une baisse de cette confiance en soi? Est-ce qu'elle a pu être abîmée par quelque chose?
Ah oui, ça c'est sûr. Ils ont eu quand même un parcours un peu difficile, là-bas dans le pays, au Vietnam, mais aussi en arrivant en France. Hein. Donc oui, il y a eu des moments où ça a été un peu compliqué, où on n'arrivait pas forcément à mettre un doigt dessus, mais eux aussi, ils ne savaient pas très bien de quoi c'était fait.
Est-ce que vous avez un exemple, quelque chose qui vous aurait marqué, et vous vous êtes dit, là, il y a un problème de confiance, là, je sens que c'est qu'il va moins bien?
Oui, ouais, j'aurais un exemple précis qui est donc notre grand garçon qui a maintenant 16 ans, qui a été adopté donc à 9 ans avec une jambe handicapée. Hein, il l'a moins maintenant, mais et c'était compliqué pour lui d'aller vers les autres. C'est-à-dire qu'il était tout le temps invité aux anniversaires, mais il voulait jamais fêter ses anniversaires à la maison. Et un jour, moi j'étais un peu, donc j'invitais pour lui, mais ça me gênait. Et un jour, il a pu me dire que en fait, il se sentait pas digne. Alors, il n'a pas mis le mot digne, mais moi, c'est comme ça que je l'interprétais. Il ne se sentait pas digne que les copains viennent chez lui, dans sa maison, dans sa chambre. Et moi, j'étais, mais les larmes aux yeux, je ne comprenais pas. Je lui dis, mais t'es incroyable comme garçon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et là, moi, j'ai vraiment senti qu'on touchait du doigt quelque chose de l'ordre de. On n'a pas mis de lumière autour de moi, quoi. On m'a pas donné d'élan, quoi. Donc, on en a beaucoup discuté, avec son père aussi. Et puis les choses après, il a fêté son anniversaire plein de fois.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au moment où il vous dit ça? Dès que ça se passe, c'est quoi qui se passe chez vous?
Ouais, quand Liam m'a dit qu'il ne voulait pas fêter son anniversaire. Ah ben moi, c'était de la tristesse, quoi. Oh là là, j'étais... D'ailleurs, je mets ma main sur le cœur. C'est que vraiment... Ah ouais, là, j'avais les larmes aux yeux, puis je me sentais impuissant de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est la première vitrine, quoi. C'est qu'est-ce que je peux faire? C'est mon garçon, je veux l'aider, je veux l'accompagner. Donc, ouais, la tristesse, ouais.
Qu'est-ce qu'on donne à l'enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'on met un blindage pour pas qu'il voit ça ou pas forcément?
Ah non, si on met un blindage ou pas, ah non, moi j'en mets surtout pas, hein, non, surtout pas, c'est que justement on en discute, on en a beaucoup discuté, on l'a décortiqué. Il y a une fois aussi où est-ce qu'on a des moutons, on est monté en haut de la colline et avec son père on s'est mis à crier, donc lui il a dit vous faites quoi? J'ai dit mais on crie, toutes les choses qui ont été compliquées pour toi, et il nous regardait et à un moment il s'est mis à crier et nous on était en pleurs, on s'est dit mais waouh, en fait c'était un beau moment. Et il faut rien enterrer, quoi. Si on enterre, c'est... Alors, évidemment, c'est s'il a envie, toujours. Et évidemment, on n'oblige rien.
Vous m'avez dit avoir des moutons, peut-être d'autres animaux. Qu'est-ce que l'animal va apporter à l'enfant, de manière générale, en termes de confiance? Est-ce qu'il va le réconforter, l'animal, et est-ce qu'il va lui permettre de gagner en confiance?
Alors, l'animal, pour nous, ça a été vraiment un sacré allié. Il se trouve qu'on a c'est des moutons, parce que moi, je suis passionnée de moutons depuis 40 ans, qui ont tous une histoire. Donc, on a des moutons à trois pattes, on a des moutons avec un œil, on a on a deux chats à trois pattes. C'est venu comme ça. Et notre garçon, qui arrivait avec sa jambe, je me souviens de l'avoir vu caresser très souvent, donc notre chat Ita. Et une fois de lui avoir dit bah tu vois t'es comme moi mais maintenant t'es tombé dans la bonne famille, ça va aller maintenant pour toi. Donc ça les aide beaucoup. Et puis aussi le fait de prendre soin. Alors parfois on a des animaux qui meurent, hein, parce que bah voilà, on a aussi des poules, on a aussi voilà. Mais de dire que quand on prend soin, bah l'animal il vous fait confiance, quoi. Par exemple, on a un gros bélier qui s'appelle Albert. Eh ben Liam, il a fallu qu'il laisse Albert le dominer. C'est-à-dire, c'est clair que c'est Albert le chef de la maison, quoi. Donc eh ben à force de confiance, eh ben il a réussi à le caresser et maintenant ils sont potes, mais il a fallu du temps.
Vous êtes membre de l'association Enfance Famille d'Adoption. En quoi cette association peut, pour les familles qui adopteraient, apporter quelque chose justement aux enfants qui auraient une baisse de morale, une baisse de confiance? On parle beaucoup de confiance dans ce reportage, mais voilà, est-ce que l'association peut aider aussi là-dedans ou pas forcément?
Le FA n'aide pas vraiment les enfants, elle accompagne plutôt les parents. Donc soit les postulants qui sont en attente d'adoption, soit les parents adoptants, avec des groupes de parole, il y a des conférences. mais on n'accompagne pas vraiment les enfants. L'association Enfance, Famille, Adoption, on parle de la confiance en soi, de ces enfants qui sont loin. On en parle beaucoup, on décortique, donc on a des groupes de parole. Parce que plus on est préparé, plus de toute façon on ne le sera pas. Voilà.
Mais, oui, c'est clair.
Voilà, mais au moins, eh ben, on décortique et puis on reste pas avec plein de certitudes. Donc oui, bien sûr que ça aide énormément. Un enfant qui a adopté à 6 mois ou un enfant qui a adopté à 5 ans, c'est pas la même chose.
La confiance a besoin de regards bienveillants, empathiques, une lumière d'amour.
Vous êtes bien dans Parentalité, mon amour, pardon, le magazine qui s'adresse aux parents et bien sûr aux jeunes, aux enfants, à toute la famille finalement. Parlons-en de cette famille qu'on vient d'écouter, Annie qui nous parle de son arche de Noé finalement, avec tous ces animaux éclopés pour certains, mais ils prennent soin, la famille prend soin d'eux. Sylvain, peut-être une réaction à cela ?
Oui, c'est un témoignage particulier, effectivement, avec une famille recomposée, ayant de plus adopté des enfants qui viennent de l'étranger. Je ne sais pas si on peut parler d'arche de Noé, il y a également visiblement des animaux de compagnie. Voilà, en tout cas, ça semble
c'est là que
une belle équipe.
C'est là que je la mettais, l'arche.
Une belle équipe, ouais. Voilà. Avec la parole d'une adulte qui parle des enfants, ouais. On n'entend pas les enfants. Est-ce qu'ils ont la même vision ? Je l'espère, pour toute la famille.
Ouais. Peut-être une réaction, Marine ?
Oui, j'ai beaucoup aimé les mots. je trouve qu'il y avait des phrases très poétiques pour parler de la confiance en soi. Et j'ai beaucoup aimé aussi le passage de « on montre l'exemple », comment le parent, l'adulte, lui aussi, en exprimant ses émotions, en faisant sortir, il peut montrer aussi un modèle plutôt que tout le blindage. Tu disais ce mot-là, toi, dans ta question, et je trouvais ça intéressant qu'elle l'exprime comme ça.
Ne pas se blender finalement et se laisser s'ouvrir un peu à l'autre, c'est toujours important. On va continuer avec un peu de musique, mais c'est des locaux de l'étape. Il s'appelle TV Sundance, pardon, je vais y arriver. Et la chanson s'appelle Change My Name.
Coffee lost its taste. Words
Parentalité, mon amour, le magazine qui concerne les parents et les enfants, je le disais tout à l'heure. 5 radios, non, oui, 5 radios avec nous, c'est Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan, ainsi que Radio Méga bien entendu, qui diffusent cette émission. C'est donc une belle émission transmise sur l'ensemble du territoire drômois. Changer de nom, c'était le nom de la chanson de TV Sundance qu'on vient d'écouter. Le titre de cette chanson, en lien avec une partie, est en lien avec une partie de ce que vous allez entendre. Écoutons deux jeunes filles croisées devant le collège-lycée Camille Vernet nous parler de confiance en soi.
C'est croire en soi et c'est une façon de s'accepter, je pense.
Qu'est-ce qui peut faire que ta confiance en toi, elle s'abîme?
Ça peut être quelqu'un qui nous rabaisse tout le temps. Après, on peut s'estimer comme moins bien, on va dire. Par exemple, si on veut réussir quelque chose et qu'on échoue, après, ça va peut-être nous faire baisser notre confiance en soi. Enfin, après, ça dépend des gens. Mais...
Quand on se fait harceler ou... En fait, je sais pas comment exprimer, mais... le jugement des autres et tout.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on essaye de faire?
On peut se rassurer, on peut demander de l'aide. Et après, il faut toujours s'aimer et se voir comme on est réellement. Parce que moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir confiance en soi, c'est important.
Vouloir changer son apparence, changer comment on s'habille ou notre corps.
Moi, je pense que si on souhaite le faire, on peut. Mais si on s'aime comme on est déjà avant... Il faut mieux rester comme on aime, nous, parce qu'on est libre de choisir, par exemple, comment on veut s'habiller ou des choses comme ça.
Alors, Sylvain Mollier, qui est à ma gauche, conseiller informateur au point d'information jeunesse, je l'ai vu beaucoup noter avec des jeunes qui se rapprochent de l'âge, des jeunes qu'il doit recevoir, on va en parler. Je voudrais juste faire réagir avant Marine Gentiel. Deux, trois mots, peut-être, vous avez vous aussi noté.
Oui, j'ai noté pas mal de choses. Qu'est-ce qui me venait? Il me venait le j'aime bien s'aimer, se voir comme on est réellement et en lien avec, si j'aimais bien cette dernière phrase de si j'ai envie de changer d'apparence, de tenue vestimentaire, de faire plein de changements, ok, mais si c'est juste avec moi-même. Et je pense que c'est un gros challenge à l'adolescence, cette affaire-là.
Sylvain, peut-être un mot avant de commencer les questions? Dites-moi.
Alors les premières paroles, la confiance en soi pour cette jeune fille, c'est croire en soi. Et effectivement, la confiance en soi, c'est pas un concept plat. C'est beaucoup du ressort du sentiment. Elle parle d'amour également, voilà. Donc plein de thématiques intéressantes dans cette interview.
Alors je reviens juste sur une petite chose, il y a une des deux jeunes élèves de Camille Vernet qui dit « je change ma tenue vestimentaire, je m'adapte face à un jugement de l'autre ». Ça traduit quoi ça de dire « ok, il y a un jugement, je vais me changer ».
Oui, c'est logique, et puis je pense que ce sont des adolescentes et adolescents, hein, ouais. Donc il y a le sentiment d'appartenance,
Donc on peut le voir
qui
aussi
est très
comme
important
ça.
Dans la construction individuelle. Ouais. Et on l'a tous vécu, toutes les générations. Ouais, hein,
Soit on s'adapte, soit on dit « je continue dans ce que je crois ».
Oui, tout à fait. Et en même temps, elles expriment toutes les deux certains doutes, des interrogations en disant « je pense que peut-être, mais est-ce que c'est la bonne décision ?»
On va le voir, on est difficilement effectivement sur des affirmations. Pour commencer, vous êtes conseiller informateur jeunesse, je le disais. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier autour de la jeunesse? Est-ce que votre propre jeunesse, c'est une matière que vous pouvez utiliser pour faire votre métier?
Ma propre jeunesse, elle a été plutôt heureuse. Et puis dans une époque, les années 80, vers lesquelles on revient maintenant essentiellement pour l'aspect musical. Et voilà, avec une société qui était sûrement moins plombée, plus d'insouciance que la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai toujours travaillé auprès des jeunes, mais aussi de moins jeunes. Mais le fil conducteur de ma carrière, ça a été beaucoup effectivement autour de la jeunesse. Alors au sens plutôt des tranches d'âge 18-30 ans, 16-30 ans.
Hein. Qu'est-ce qui vous a amené là?
Bonne
question.
Bonne question. Bonne question. Ouais, je pense une empathie, pense pour les choses simples. Et c'est vrai que les jeunes nous amènent souvent des choses simples par rapport au monde des adultes.
Ouais.
Vous avez parlé d'âge. Quel âge ont les jeunes que vous recevez au Pige?
Alors, au point info jeune, on ne parle plus de point information jeunesse, puisque ouais, maintenant on est structuré au niveau national dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Info Jeune. Donc, point info jeune, donc communément appelé Pige. On dépend du service enfance jeunesse de Valence Roma Aglo. Mmh. Donc, on intervient sur 54 communes de l'aglo et potentiellement 220 000 habitants quand même.
Ouais.
C'est une grande collectivité, voilà. Donc, on intervient auprès du public de 11 à 30 ans, ce qui est une tranche d'âge très large. Donc des très jeunes et puis des jeunes moins jeunes et puis des jeunes adultes jeunes, voilà. La mission principale et essentielle du point info jeune, c'est vraiment de répondre à toutes les demandes d'information des jeunes et de leurs familles. Pour tout ce qui a trait au questionnement justement de la jeunesse, hein, ça.
Quand on dit jeune, on parle de tous les jeunes. Il n'y a pas de profil particulier, c'est tous les jeunes qui passent.
Alors, c'est une particularité du point info jeune. C'est effectivement le dispositif s'adresse vraiment à tous les jeunes, non pas particulièrement les jeunes étudiants, particulièrement demandeurs d'emploi, particulièrement lycéens ou collégiens. On intervient vraiment auprès de toute cette tranche d'âge sans statut.
Sans distinction.
Voilà.
Alors, vous apportez aux jeunes des informations hein, sur toutes les thématiques qui concernent la jeunesse. Quelles sont, selon vous, celles que l'on pourrait, on va dire, qualifier d'essentielles?
Alors, essentielles pour les jeunes ou pour leurs parents?
Ben, bonne question. Alors, voilà. Pour les jeunes, commençons par les jeunes. Tiens, est-ce que c'est les mêmes?
Bah pour les jeunes, c'est beaucoup autour de la mise en pratique de leurs souhaits en fait. Hein. Et puis, comme dans toute société, il y a des points de blocage, il y a des difficultés à atteindre ses objectifs. Donc, on travaille beaucoup autour de la mobilité internationale aujourd'hui, qui est une demande qui redevient forte au niveau de la jeunesse, hein, qui a été comme vous le disiez tout à l'heure, pas mal assombri par la période Covid. Nous, on a cette spécialisation au niveau de la mobilité internationale. Mmh. On organise chaque année un gros événement qui s'appelle Jeunesse en Mouvement, d'ailleurs, sur l'aglo. Voilà, oui. Au niveau des parents, c'est plus les préoccupations à un moment donné d'entrer dans les différents stades de la vie et du coup de la scolarité, beaucoup autour de l'orientation scolaire, fin du collège, Parcoursup évidemment, à l'arrivée en études universitaires. Mmh. Et voilà. Et nous, notre rôle, c'est d'être en capacité de répondre à toute demande d'information, soit directement auprès du public, soit en orientant correctement la demande vers le bon partenaire.
C'est ce que vous me disiez effectivement. Comment vous les trouvez, ces partenaires? Comment vous vous entourez pour faire un maillage intéressant?
Ben, on travaille en permanence avec tous les partenaires qui accueillent soit scolairement, soit dans des activités périphériques, la jeunesse de l'aglo en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Et notre rôle, c'est vraiment d'être en veille permanente au niveau de l'information pour, moi je le dis souvent, ne pas faire la faute professionnelle, d'adresser une famille ou un jeune dans un dispositif qui ne lui convient pas, au niveau de la tranche d'âge, au niveau du statut, etc. Pour nous, c'est presque une faute de faire ça. Donc, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir toujours soit répondre à une demande d'information, soit de pouvoir donner la bonne information et le bon partenaire.
Amener vers le bon endroit. Parlons un peu de confiance en soi. Vous m'avez dit, quand on s'est eu au téléphone, ne pas vraiment savoir ce que c'était cette confiance en soi. Mais vous m'avez dit, pour faire mon métier, j'ai besoin d'établir un lien de confiance. Comment il s'établit ce lien entre vous et les jeunes, ce lien de confiance justement?
Au niveau de nos pratiques professionnelles, on intervient tant en collectif, ce qu'on appelle l'aller vers, dans les établissements scolaires, auprès du public étudiant également, hein, au travers de leurs représentations et de leurs interlocuteurs. Et puis également, on accueille tous les jours à la Tour Maubourg, où nous sommes situés à Valence, avec bientôt un prochain lieu d'accueil à Romans. C'est un scoop
dans
l'année 2023. Donc là, c'est de l'accueil individuel. soit sur le flux, sans rendez-vous, soit en prenant un rendez-vous, et souvent dans un deuxième temps, parce qu'il y a une demande spécifique. Et la confiance, elle s'établit beaucoup, nous, dans l'attitude qu'on a vis-à-vis des jeunes et de leur famille. On pratique ce qu'on appelle, on se forme pour l'écoute active. Donc théoriquement, c'est une manière d'écouter et d'entendre, ou d'entendre et d'écouter. Ouais. Qui vient d'un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers, et donc qui est vraiment basé sur la bienveillance, l'absence de jugement, ne pas interrompre son interlocuteur, même si à un moment donné ça nous paraît un petit peu décousu, voilà, et ensuite de pouvoir reformuler cette demande, et finalement de reformuler pour passer de la demande quelque part au besoin réel exprimé.
Alors, vous m'avez dit, les jeunes se dévalorisent à l'adolescence. Est-ce que c'est systématique, selon vous, ce passage par une dévalorisation ? Est-ce que vous le voyez très souvent, en tout cas ?
En tout cas, c'est quelque chose que moi, dans ma carrière professionnelle, maintenant de plusieurs dizaines d'années, a pris de l'ampleur, effectivement. Alors, est-ce parce que l'horizon paraît plus bouché et que du coup, les jeunes se font la réflexion qu'ils n'arriveront pas à atteindre leur objectif, que eux-mêmes s'assignent, ou que leur famille quelque part leur assigne au travers de représentations familiales et sociales, hein. Mais effectivement, et nous notre rôle là-dedans, c'est justement d'être une capacité d'avancer. On entendait tout à l'heure les jeunes parlaient effectivement de réussir, toujours s'aimer, c'est important pour avancer vers l'avenir.
C'est bien qu'il arrive ce mot amour, ça fait plusieurs fois qu'il vient dans cette émission, et je dirais que ça fait plaisir. Avec le point d'info jeune, vous valorisez, vous m'avez dit par exemple un CV, ça paraît anodin, mais comment on fait pour le valoriser ? C'est-à-dire le jeune avec un CV, et vous lui dites « mais ça c'est bien », comment vous... Quelle ligne vous allez mettre en avant avec des CV où parfois, quand on est jeune, il n'y a pas grand-chose dedans.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le CV, c'est quelque part la carte d'identité professionnelle qu'on doit produire pour toute demande d'emploi, mais également aujourd'hui d'orientation scolaire, particulièrement sur Parcoursup. Et c'est vrai que quand je vous ai parlé de valoriser le CV, nous on organise beaucoup entre autres des ateliers de soutien sur les stages de troisième. Donc là c'est plutôt sur la période de l'automne chaque année. Et les jeunes arrivent en disant « non, j'ai rien fait, là je suis en troisième ». Et puis nous on est là pour gratter un peu derrière tout ça et de mettre en avant tu fais de la danse. Tu pratiques un instrument de musique ou tu t'occupes de tes frères et sœurs peut-être plus jeunes, etc. Et d'essayer, nous, toujours d'être dans la valorisation, effectivement, qui est pas que l'aspect purement professionnel, entre guillemets, mais toutes les qualités que peuvent avoir ces jeunes. Et du coup, souvent, ils sont assez surpris en disant, je fais tout ça.
Et c'est pas mal.
C'est pas mal.
Effectivement. Tom, votre collègue que l'on salue, et peut-être qu'il nous écoute, avait parlé, il avait une phrase, il disait « faire des choix, c'est prendre des risques ». Alors, est-ce que c'est ce risque qui empêche parfois justement le jeune de choisir justement et de rester, de stagner peut-être ?
C'est vrai qu'on est dans une société où il y a une étendue des possibles... incroyable, y compris par l'intermédiaire des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Et prendre des risques, à un moment donné, c'est de prendre une voie le plus éclairée possible, tout en sachant, quand on est jeune, forcément, on se dit « mais je vais là, et est-ce que ça aurait pas été mieux ailleurs ?»
Oui, c'est ça.
Et nous, on doit les encourager à leur dire ne pas prendre de risque, c'est prendre un risque, mais qui ne sera pas éclairé pour vous, qui sera finalement subi.
Prendre des risques, choisir. Effectivement, des choses pas faciles quand on démarre dans la vie, en tout cas dans la vie à l'extérieur de la maison, quand on est un peu plus grand. Y a d'autres radios qui retransmettent, je disais tout à l'heure, cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres points d'info jeunesse sur le département ? Jeune, pardon.
Alors oui, il y a tout un, il y a tout un réseau, souvent porté en milieu rural plus par des MJC ou des centres sociaux. Nous, on est porté par une très grosse collectivité, mais c'est à la hauteur aussi de, du nombre d'habitants, je disais 220 000, et puis une volonté politique au niveau de l'agglo depuis de nombreuses années. Mais effectivement, vous voyez, on a des représentations dans plusieurs lieux de la Drôme. Et si vous souhaitez pouvoir accéder à ce type de dispositif, il y a un site internet du réseau InfoGène justement qui a une déclinaison bidépartementale en Drôme et en Ardèche. Et donc c'est Ardèche Drôme InfoGène. Et c'est un site qui est remarquablement réalisé et constamment actualisé. Et donc il y a énormément d'informations à trouver.
Merci beaucoup à vous. Je vais finir avec quelques mots que vous m'avez dit, mais ce ne sera pas une question. Vous m'avez dit, quand je vais au travail le matin, c'est pour notamment ouvrir des soleils quelque part. Et je trouve que ça file la banane pour aller au boulot. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu à ce micro. On va enchaîner cette émission parce qu'on se rapproche de la fin avec l'agenda. Et c'est Isabelle Tambay qui est là aujourd'hui pour la CAF. Et on va faire un tour des territoires. On va sur Valence-Romain-Aglo pour commencer, tiens, pas très loin.
Et oui, on le sait bien, être parent, c'est un défi de tous les jours. Et c'est pour vous aider à le relever que le rendez-vous des parents a été mis en place par Valence Romain Aglo, qui vous propose une fois par mois de venir échanger avec des professionnels et d'autres parents sur un thème particulier. Alors pour le prochain trimestre, le premier rendez-vous est organisé en collaboration avec la ville de Valence et permettra d'échanger sur « Parents au quotidien, arrêtons de nous prendre la tête ». Nous sommes des parents formidables, il n'y a pas de famille particulière, il y a des familles tout court.
Alors un psychosociologue réputé, Jean Epstein, sera là pour partager, je crois.
Et oui, il partagera son regard et son expérience sur l'éducation des enfants en partant des questions essentielles, comme « M'aimera-t-il encore si je lui dis non ?»« Comment m'imposer sans être trop autoritaire ?»« Comment parler à un adolescent qui ne veut pas nous écouter ?» Alors notez bien la date, c'est le mardi 4 avril à 18h30 à l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Valence. Le rendez-vous suivant est fixé au mardi 9 mai à 20h à Beaumont-les-Valences, à la Maison des associations d'Anjou. Grégory Boutin, psychologue et accueillant en LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, animera ce temps d'échange sur comment parler aux tout-petits. C'est gratuit et c'est organisé par la Maison Bleue, qui est aussi un LAEP.
Qu'on a eu hein, dans Parentalité, mon amour, il me semble.
Oui, complètement, on en a parlé plusieurs fois d'ailleurs.
On file au mois de juin, Isabelle, avec un dernier, troisième rendez-vous.
Oui, alors celui-ci se déroulera à Saint-Paul-les-Romans et il sera question des médias numériques dans la vie des 6-12 ans. Jean-Claude Bondaz, médiateur numérique et coordonnateur des promeneurs du net de l'Ardèche, animera ce temps d'échange qui démarrera à 18h30. Alors si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez sans problème retrouver toutes les infos sur parentalité@valenceromanaglo.fr.
Un rendez-vous de printemps qui est attendu hein, par les Valentinois.
Et oui, la semaine des familles organisée par la ville de Valence, elle se déroulera cette année du 9 au 17 mai avec 10 jours d'animation, d'ateliers, de spectacles en direction des familles. Alors le programme complet est disponible sur le site de la ville de Valence, mais vous pouvez d'ores et déjà noter deux de ces dates. Alors on en a déjà parlé, le samedi 13 mai de 14 à 18h au parc Jean Perdry à Valence avec Famille en Fête. Des animations, des jeux à partager en famille. Et cet après-midi est construite avec les acteurs des territoires de Valence, dont Partage Parentalité Plurielle. Et puis le mardi 16 mai à 19h à la médiathèque François Mitterrand avec du théâtre interactif Vague Alarme proposé par la compagnie Entrée de Jeu. Être parent d'ado, tout un défi. On s'interroge au quotidien, comment garder la communication, gérer les sorties, parler scolarité. Ce ne sont quelques-unes des questions qui se posent aux parents. Le support théâtral permet de partager et réfléchir à ce défi d'avoir un ado à la maison.
Alors Isabelle, nous n'avons plus beaucoup de temps. Deux mots, on va faire un point sur les soirées ciné-débat proposées par la CAF de la Drôme.
Oui, alors très vite, la prochaine aura lieu le jeudi 11 mai à 19h30 au Luxe avec la projection du film À propos de Joanne avec Isabelle Huppert. Et là, on aura la chance d'avoir Laurent Larivière, le réalisateur du film, pour le débat. Et puis, la dernière chose, c'est le festival...
Numérique et manga.
Oui, voilà, il est important, c'est le festival des cultures numériques et du manga. Ça se passe à Nyons, le 15 avril, de 14h à 19h.
Merci beaucoup Isabelle pour ce agenda au pas de course. Ce 31e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour, Marine Gential, bénévole de l'association Partage Parentalité Pluriel, et Sylvain Mollier, conseiller informateur jeunesse du Point Info Jeune. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26 et à Raphaël Terribilet pour la réalisation de cette émission et les différents portraits. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 5 juillet, on sera en été. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Rediffusion sur Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Fé et Radio Royan. Vous retrouverez bien sûr cette émission sur le caf.fr, udaf.fr et le site de la radio. C'est avec les mots de Martin Luther King que je vous propose de clôturer cette émission. Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. A très bientôt dans Parentalité, mon amour.
Je lève que vite.
C'est moi qui vais rendre au vide. Tout le monde.
Dans les ondes buissonnières sur Radio Saint-Fé, vous venez d'écouter Parentalité et mon amour, épisode 32, une émission signée Radio Méga. Retrouvez cette émission ainsi que toutes les ondes buissonnières sur le site de la radio www.radiosaintfé.com. On se retrouve pour de nouvelles ondes buissonnières la semaine prochaine, même heure et même fréquence.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.